Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est le travail de l'Église, la bienfaisance. L'évangélisation et l'édification, toutes les deux visant le salut des âmes, sont au cœur de la mission de l'Église. Il y a un troisième aspect du travail de l'Église, et il correspond à un troisième aspect du ministère de Jésus. L'Église n'existe pas pour faire ce travail, comme Jésus n'est pas venu dans le monde pour faire ce travail. Pourtant, il s'agit de quelque chose que Jésus, comme son Église, ne pourrait pas omettre de faire. Il s'agit de la bienfaisance, ou les bonnes œuvres, le fait de venir en aide à ceux qui souffrent de divers problèmes. Il est vrai que les bonnes œuvres ouvrent parfois les cœurs de telle sorte que certaines personnes soient mieux disposées à écouter et accepter l'Évangile. Mais ce n'est pas là la raison pour laquelle Jésus faisait du bien. Jésus faisait du bien aux hommes parce qu'il est amour, parce qu'il est rempli de compassion, parce qu'il se soucie des hommes et de tous leurs problèmes. Cela fait partie de son caractère. L'Église est motivée par le même amour quand elle fait le bien. Nourrir ceux qui sont physiquement affamés, par exemple, n'est pas la mission de l'Église et ne doit pas la détourner de la prédication de l'Évangile qui donne la vie éternelle. Néanmoins, c'est un travail que les chrétiens entreprennent naturellement par amour et compassion et qui est tout à fait en harmonie avec la volonté de Dieu. Jésus a toujours enseigné à ses disciples de faire de bonnes œuvres. En Luc chapitre 14, versets 12 à 14, par exemple, il dit « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » À une autre occasion, il a raconté en Luc 10, versets 25 à 35, la parabole du bon samaritain pour montrer l'importance de l'amour du prochain, l'amour manifesté concrètement dans les actes. En Matthieu 25, versets 31 à 46, Jésus décrit le dernier jugement, où les uns se verront condamnés au feu éternel et les autres accueillis dans le royaume de gloire. Les condamnés auront manqué de faire du bien aux autres. Jésus leur dira, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. » Matthieu 25, versets 42 à 45. Les apôtres, dans leur enseignement, ont insisté autant que Jésus sur les bonnes œuvres. Jacques 1, verset 27 les présente comme une partie nécessaire de la vraie religion. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs souffrances et se garder de toute tâche produite par la mauvaise influence du monde. Dans le chapitre suivant, Jacques affirme que les bonnes œuvres sont nécessaires pour rendre notre foi efficace et vivante. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, versets 15 à 17. L'apôtre Jean parle de la même manière. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec charité. 1 Jean 3, versets 17 et 18. L'épître de Paul à Tite contient de nombreuses références aux bonnes œuvres. Il dit au chapitre 3, verset 14, « Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Dans le Nouveau Testament, il est clair que les bonnes œuvres étaient pratiquées non seulement par les chrétiens à titre privé, mais collectivement aussi. L'aide aux démunis a fait partie des œuvres de l'Église dès les premiers jours après son établissement à Jérusalem. Dans ces temps, de nombreuses personnes qui étaient venues à Jérusalem de l'étranger pour la fête de la Pâque juive avaient entendu l'Évangile et s'étaient converties. Ils ont sûrement voulu rester quelque temps pour approfondir leur nouvelle foi, mais ils n'avaient pas prévu les moyens nécessaires pour prolonger leur séjour. Dans un tel contexte, nous lisons en Actes 2, versets 44 et 45, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » En Actes 6, verset 1, la situation avait changé, mais l'Église était toujours sensible aux besoins des nécessiteux. Une distribution de nourriture aux veuves dans l'Église se faisait chaque jour. Plus loin, en Actes 11, versets 27 à 30, nous lisons « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Tous ces cas montrent que la bienfaisance n'était pas uniquement l'affaire de chaque chrétien individuel. Tous les membres réunissaient souvent leurs efforts pour ce genre de travail. Bien que les exemples que nous avons dans le livre des Actes nous montrent l'Église en train de pratiquer la bienfaisance envers les plus pauvres parmi ses propres membres, il est certainement permis que les non-chrétiens aussi bénéficient de cette charité. La priorité est aux chrétiens, mais les autres ne sont pas du tout exclus. L'apôtre Paul dit en Galates 6, versets 9 et 10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Il est important que les chrétiens pensent à la bienfaisance comme un devoir à accomplir, de préférence comme un devoir agréable, ou même comme une grâce. Paul dit ceci au sujet des chrétiens de la Macédoine qui voulaient contribuer à l'aide destinée aux églises de la Judée. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » 2 Corinthiens 8, versets 1 à 4. Un chrétien doit penser à la bienfaisance comme une chose qu'il fait, et non pas une chose qu'il reçoit, non pas un droit à réclamer. Certains pensent à leur contribution à la collecte comme la participation à une tontine. Quand leur tour arrive, Quand ils auront besoin de puiser dans le fonds commun, ce sera leur droit. C'est pour cela qu'ils y contribuent. Cette manière de penser n'a rien à voir avec l'esprit de générosité que le Christ nous enseigne. La charité de l'Église ne devrait pas encourager la paresse ou la négligence des devoirs. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12, enseigne que ceux qui sont capables de travailler, mais refusent de le faire, ne devraient pas bénéficier de la bienfaisance. Paul dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. De même, tandis qu'il est tout à fait normal que l'Église assiste les veuves qui sont sans ressources, la première responsabilité appartient à la famille. 1 Timothée 5, versets 4 et 16 dit « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Il y a toutes sortes de personnes que l'Église peut assister. Des veuves, des réfugiés de guerre, des malades, des victimes de famine, des prisonniers, des orphelins, des sans-logis, ceux qui manquent de vêtements. L'Église n'existe pas pour résoudre les problèmes de toutes ces personnes, mais puisqu'elle prend Jésus comme son modèle et son chef, elle ne peut jamais rester indifférente aux souffrances des êtres humains. Terminons avec les mots d'un cantique peu connu, mais très beau. Tu naquis pour servir, et servir fut ta gloire. Servir est à jamais le sceau de tes enfants. Celui qui, sans agir, se contente de croire, ne sait pas croire encore au sauveur des croyants. Que de maux, de périls et de besoins m'appellent, que de frères, d'amis tu jettes dans mes bras. Que d'œuvres à fonder, que d'œuvres qui chancellent. Garde à jamais nos cœurs d'être des cœurs ingrats.
Quand ma voix devient délégale de celle d'un ange en beauté, je ne suis rien qu'une cymbale qui retentit mais sans clarté. Je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité. Quand j'aurai le don de science, si d'amour mon cœur n'est pas plein, si je connais ma ce grand bien, sans charité je ne suis rien, sans charité je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour des âmes, à quoi pourrait-il me servir de consigner mon corps aux flammes? Seul l'amour anime un martyr qui n'aime pas.